Chapitre 3. On n'aurait pu trouver de caractères plus opposés que ceux réunis par le sort sous le toit de Don Martin de Guevard. Et pourtant, il n'y en avait pas de plus unis. Les choses ont souvent des aspects variés, la vie des sentiers divers, les hommes des penchants différents, sans que pour cela les esprits soient en désaccord, pourvu qu'ils ne se laissent pas dominer par les mauvaises passions de l'époque fiévreuse où nous vivons, qui méprisent le passé et le présent et ses frais de l'avenir. Aussi, malgré les petites divergences de caractère qui existaient dans la famille de Don Martin, une chose sur laquelle ils étaient unanimes, c'était leur affection pour Clémencia. Celle-ci et Paul avaient admirablement développé leur intelligence sous l'habile direction et l'influence de l'abbé, cet homme supérieur dont l'esprit était une mine d'or que chaque jour ils exploitaient avec un nouveau bonheur. L'abbé, de son côté, jouissait de son ouvrage à mesure qu'il les voyait grandir en science et en vertu. Mais celui sur qui l'influence de Clémencia agissait avec le plus de puissance était Paul. Aussi heureusement doué sous le rapport de l'intelligence que sa cousine, en outre des sympathies de cœur qu'il avait pour elle, Paul avait atteint cet âge où certaines affections arrivant chez l'homme jusqu'à la passion, ou élève son âme vers le bien, ou abaisse son cœur vers la corruption. Paul était un de ces hommes modestes qui sont souvent peu appréciés et qui passent toujours inaperçus dans le monde. Il était de plus timide, méfiant de lui-même, autant par caractère que par suite des plaisanteries continuelles de son oncle, qui, tout en l'aimant beaucoup, ne l'appréciait pas comme il méritait de l'être. Aussi, s'estimant bien moins qu'il ne valait, Paul jugea qu'il lui serait impossible de s'élever jamais à la hauteur d'une femme dont il connaissait mieux que personne la supériorité. L'amour qu'il sentit naître dans son cœur fut spontané mais sans espoir, semblable à une étoile voilée par des nuages. Clémencia aimait Paul seulement comme un frère. Trop jeune encore pour comprendre tout ce que valait son cousin, elle le jugeait superficiellement et s'amusait de bon cœur des taquineries perpétuelles dont il était l'objet de la part de Don Martin. Le temps passait doucement au milieu de cette vie tranquille. Personne ne désirait en presser ou en arrêter le cours. Plus de 6 ans s'écoulèrent ainsi, sans porter le moindre changement dans cet intérieur pacifique. Don Martin et Dona Brigida étaient toujours les mêmes. Clémencia, dont la santé s'était complètement rétablie, ressemblait à une fleur qui s'épanouit sous la fraîche haleine du printemps. Paul avait perdu une partie de sa gaucherie habituelle, bien que son oncle ne manquât pas de lui répéter toutes les fois qu'à certains jours il endossait, suivant l'usage espagnol, le grand habit de cérémonie. « Mon garçon, en paysan andalou tu es charmant, mais en habit tu ressembles à une alguacile de Séville. » Le fait est que si Paul, sous quelque costume que ce fût, n'avait pas l'élégance d'un dandy, il possédait non l'orgueil, mais la tenue et la dignité d'un vrai gentilhomme. Sur la fin d'une soirée d'été, la famille se tenait dans la cour, qui, par les soins de Clémencia, était devenue un délicieux jardin, lorsqu'on vit paraître, sur le seuil du grand portail, une jeune bohémienne d'environ 12 ans qui vendait des paniers en osier. « Qui est là ?» demanda Don Martin, assis sur un grand fauteuil qu'il faisait porter partout pour pouvoir surveiller plus commodément son monde, depuis que son grand âge l'empêchait de mener une vie active. « Ami !» dit la jeune bohémienne avec l'accent andalou. « Juan !» dit alors Don Martin, en appelant d'une voix forte la gouvernante, « donne à cette petite guenon une livre de pain de ménage et qu'elle passe la porte. » Don Martin avait raison. L'enfant était d'une laideur rare. Ses cheveux, semblables à des crins, pendaient en désordre des deux côtés de sa tête. Un de ses yeux louchait, de manière à faire croire qu'il voulait aller rejoindre son camarade. Ses dents très espacées étaient d'une blancheur éblouissante qui contrastait avec son teint d'un brun très foncé. À travers les trous innombrables de ses vêtements en lambeaux, et qui semblaient garnis en bas d'une sorte de frange, on apercevait ses jambes amaigries, dont la peau était aussi noire que celle d'une africaine. Son air était sérieux, ses mouvements lents, et elle avait toute la désinvolture et le dandinement particuliers à sa race. « Combien veux-tu de ces paniers ?» lui demanda Clémencia. Et que veux-tu en faire ? Dit donc Martine. Je veux d'abord faire une bonne œuvre en les lui achetant, puis les doubler en soie, les garnir de rubans et m'en servir pour y mettre des plantes aromatiques. Oui, ma bonne señorita, ma jolie señorita, achetez-les-moi et je vous dirai la bonne aventure. Au diable ta bonne aventure, passe-moi la porte, petit lutin noir, lui dit donc Martine. Laissez-la, mon père, je vous prie, me dire la bonne aventure, s'écria gaiement Clémentia. J'ai eu toute ma vie le plus grand désir de la prendre. Bêtise, murmura donc Martine. Laisse-la, tracassier, lui dit Dona Brigida. Si cela l'amuse, pourquoi la contrarier? N'en parlons plus, reprit donc Martine. Clémentia mit sa blanche main dans les mains noires de la petite, dont la peau était froide comme celle d'un reptile. La bohémienne fit semblant d'examiner les lignes de la main et dit ensuite, en prononçant lentement chaque mot et d'une voix forte, puis ensuite, en finissant précipitamment ses phrases, d'une voix presque imperceptible. « Au nom du bon Dieu, car partout où il est, il ne peut y avoir de maléfice. Vous êtes douce comme la fleur de guimauve, fille d'un bon père et d'une bonne mère, issue d'un sang pur comme l'eau d'une source limpide. » Vous êtes, ma bonne et belle seigneur, comme une fraise des bois dont tout le monde sait le nom et dont si peu connaissent la saveur. Vous avez un goût à la fois délicat et difficile. Vous serez comme la fortune aveugle. Vous aurez le bonheur sous vos yeux et vous ne saurez pas le voir, mais il viendra vous trouver, car vous méritez tout celui que le sort vous réserve. Méfiez-vous de ceux qui viennent de loin, qui voudraient vous acheter comme une belle marchandise et qui ont deux faces comme le satin, une en dessus, l'autre en dessous. Mais vous réussirez, car la rose sait bien en quelle main elle pose. Soyez bonne et gentille avec la gitanille. Vous avez du superflu, je manque du nécessaire. Ne soyez pas avare. Venant de vous, le peu que vous me donnerez sera beaucoup pour ma misère. Voilà ce qu'on appelle la bonne aventure du bon pain. C'est à vous de me le donner, à moi de le manger. » Clémentia se mit à rire de tout ce babillage, disant que toutes ces généralités ne prouvaient rien. « Au bout du compte, dit donc Martine, c'est un moyen comme un autre d'arriver à la bourse. » Clémentia demanda ensuite à l'enfant. « Sais-tu prier ?»« Quelle question, dit donc Martine. » Les bohémiens ne savent que piller. Oui, ma bonne señorita, je sais prier, répondit la petite à Clémentia. Quand et comment fais-tu ta prière? À mon coucher, señorita, après avoir mis une tête d'ail sous mon oreiller, je mets la lumière auprès de ma tête, la croix à mes pieds, à ma droite Adam, à ma gauche Ève, afin que les serpents, les lézards et les bêtes venimeuses, au lieu de m'approcher, s'en aillent où va cette pierre. » Et prenant un petit caillou, l'enfant le jeta du côté de Don Martine, qui, sans faire attention à cette malice, lui dit « Petite, apprends-moi à dire cette prière pour que le ciel me délivre de ta présence. » « Ah, le bon Seigneur, l'excellent Seigneur !» s'écria-t-elle en appuyant sur ses mots. « Mais où dors-tu ? » poursuivit Clémentia. « Dame, sur la terre, ma bonne, ma douce, ma blanche señorita, car vous ne ressemblez guère à ce seigneur si farouche, dont la langue pique comme les dards d'un hérisson. » « Pauvre enfant, » dit Clémentia. « Elle n'est pas bien à plaindre, » interrompit donc Martine. « À 12 ans, on dort partout, et le meilleur oreiller est l'insouciance du lendemain. Va-t'en. » « Laissez-la, mon père, elle m'amuse. » Elle te plaît, sans doute, comme te plairait un chien carlin à force de laideur, grommela donc Martine. Je vais chercher une couverture et un oreiller, dit Clémentia en courant. Pourvu qu'elle s'en aille, lui cria donc Martine. Donne même à cette sauterelle d'Égypte un moustiquaire pour la garantir des cousins. Sainte Madone de la Soledad, dit la petite bohémienne d'un ton langoureux et moqueur. « Quel bon et respectable seigneur !»« Que signifie cela, comtesse du haillon ?»« Que la voix de votre seigneurie ressemble au son d'une cloche sonnant une agonie, et que sur son fauteuil, où sa personne se repose si mollement... »« Au diable l'effronté !» s'écria donc Martine, courroucée. Disparais au plus vite, file, car si je me lève... Clémence apparut, portant une couverture, un oreiller et quelques pièces de monnaie qu'elle donna à la petite. L'enfant les prit et, tirant un petit billet d'une bourse en cuir qu'elle portait à son cou, elle le donna à sa bienfaitrice en lui disant « Vous l'ouvrirez, Seigneura, le jour de votre mariage, et vous verrez alors si la petite mendiante n'a pas eu raison dans ses prédictions de bonheur. » « De bonheur ?» dit Clémence en revenant à sa place. « Peu de paroles ont plus d'exception. Chacun l'entend à sa manière. Peut-être la pauvre enfant le fait consister à se marier. » « Le bonheur, dit Don Martin, consiste à jouir en paix des biens de la terre et à se moquer de tout. N'est-ce pas, Seigneura ? » demanda-t-il à sa femme. « Hélas ! Répondit Dona Brigida, le bien et le mal, rien n'est constant ici-bas. La vie n'est qu'un voyage. Pourquoi tant rechercher les douceurs dans une hôtellerie où l'on ne doit s'arrêter qu'un instant ?»« Cela n'empêche pas, Seigneura, que mon voyage ici-bas dure déjà depuis 77 ans à peu près, et que grâce à vous et à notre petite perle, à part la perte de nos enfants, j'aurais été le plus heureux des mortels, car, au bout du compte, on ne quitte jamais ce monde sans se souvenir du bonheur qu'on y a goûté. » « Dis toujours grâce à Dieu, Martine. »« Oui, Seigneur, car de Dieu nous vient le bien et des abeilles le miel. » « Je parie que mon oncle n'entend pas le bonheur comme vous, mon père. »« Évidemment non, ma fille, » répondit l'abbé. « Je crois que le véritable bonheur consiste à s'élever, non pas jusqu'aux nuages, mais au-dessus d'eux, car venus de la terre, ils doivent y redescendre. » « Je ne vois pas comment on ferait pour monter aussi haut, à moins d'avoir des ailes d'ange, car celles de l'oiseau n'y suffiraient pas. »« Qu'en dis-tu, Paul ? Voyons, parle, ta bouche reste close comme celle d'un canon mis au rebut. N'est-ce pas que mon frère a tort de placer ainsi toute chose hors de la portée humaine ?»« Quand le bonheur que l'on rêve est impossible, répondit Paul, mieux vaut que l'esprit s'abstienne de le définir, le cœur de le désirer. » « Paul, mon ami, il m'est avis qu'avec les doses de science que ton oncle te fait avaler par régime, tu vas devenir un ennuyeux discoureur. Ce que tu dis là n'a pas le sens commun, et tout ce verbiage te va comme la coquetterie à une vieille. » « Mon frère, dit l'abbé, cette manière de raisonner est injuste et peu délicate. La science sied à Paul comme à tout homme intelligent, animé d'un grand désir d'apprendre. » « Ah, ça, l'abbé !» reprit donc Martine, tu me parles toujours de délicatesse. Pourrais-tu me dire ce que tu entends par ce mot ? La délicatesse, lui répondit l'abbé, est, comme l'a dit un philosophe, un continuel sacrifice de soi-même qui se contente de sa propre approbation et se soustrait à la reconnaissance. Un surcroît d'égard envers l'infortune, un bienfait rendu en échange d'une injure, un sentiment de dignité personnelle tel que nous agissons en secret comme nous agirions devant le monde, une fidélité à notre parole qui survit à l'estime, à l'amitié, à l'amour, même à la mort. Une appréciation aussi juste et aussi bienveillante des qualités d'une personne absente que des mérites d'une personne présente. Une joie plus grande encore du bonheur des autres que du nôtre propre. J'ajouterai que la délicatesse est une fleur qui prend racine dans le cœur et dont l'éducation développe le parfum. Eh bien, mon cher frère, ta définition est trop délayée, dit Don Martin. Le cœur sur la main et dans le cœur un noble sang, voilà d'après moi la délicatesse. Le fruit sent la fleur, comme tu le dirais. En toi, Martin, reprit l'abbé, elle trouve un terrain si bon, quoique inculte, qu'à défaut de fleurs, elle donne du moins de beaux fruits. Chez bien des gens, malheureusement, elle ne porte ni l'un ni l'autre. Clémence, dit Don Martin à sa belle-fille, pour détourner une conversation qui ne l'intéressait guère, ouvre le billet que t'a donné ce petit serpent. Non, monsieur, reprit gaiement Clémence, je le garde précieusement. C'est un enfantillage, ma fille. Laisse, Martine, laisse chacun libre de faire sa volonté, pourvu qu'elle n'offense ni Dieu, ni toi, voilà la véritable délicatesse. Quand donc perdras-tu l'habitude de faire comme les journaux, de te mêler de ceux qui ne te regardent pas ? Il est vrai, Seigneur, reprit donc Martine, Les journaux, usant d'une liberté mal entendue, s'immiscent trop souvent dans les affaires qui ne les touchent point. Moi, je me mêle seulement de ce qui se passe chez moi. J'ai d'autant plus raison d'en agir ainsi que sans moi, convenez-en, tout à la maison irait fort de travers. Pourvu que vous soyez bien tranquille dans votre oratoire, vous ne vous occupez guère du reste. Pourtant, le proverbe dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Aussi, je vais suivre ton conseil, lui dit Dona Brigida, en souriant gravement, car ma cousine m'attend au couvent avec la mère abbesse. Madame de Guevara se leva, monta dans sa chambre et partit. Mais par une négligence inconcevable chez elle, la clé de son oratoire, où personne n'entrait jamais, resta oubliée sur une chaise. Prends cette clé, dit Don Martin à Clémencia. Et va voir quel trésor ma femme a si profondément enseveli dans ce bienheureux oratoire. Ma mère, vous le savez, ne veut pas qu'on y entre. Vas-y, je te l'ordonne. Quel que soit son secret, nous devons le respecter. Nous devons ? Qu'est-ce à dire, ma fille ? Fais ce que je t'ordonne, le reste me regarde. Mais, mon père, vous ne me l'ordonnez pas, c'est impossible. Impossible ? Est-ce que je parle grec ? Et pourquoi ne vous l'ordonnerais-je pas ? Parce que vous ne voudriez pas me causer du chagrin. Et quel chagrin ? Celui de vous désobéir, mon père. En ce moment, entra Dona Brigida, cherchant la clé qu'elle avait oubliée. Don Martin s'empressa de lui raconter ce qui venait de se passer, en se plaignant du refus de sa belle-fille. « Elle a fait ce qu'elle devait faire, Martin, » dit gravement Dona Brigida. La volonté des autres doit être respectée comme le cachet d'une lettre. Puis, s'adressant à sa belle-fille, « Pour te récompenser de ta discrétion, lui dit-elle en lui tendant la clé, je t'autorise à entrer dans mon oratoire. » Clémence la prit et s'achemina vers la mystérieuse enceinte dont elle franchit le seuil avec empressement. Au milieu d'une obscurité profonde, la faible lueur d'une lampe éclairait à peine l'autel sur lequel on voyait une image de Notre-Dame des Sept Douleurs. À ses pieds, une tête de mort reposait sur un socle de marbre blanc, avec ses mots tracés en caractères noirs. « Je fus ce que tu es, tu seras ce que je suis. » Clémence en sortit tristement impressionnée. « Mon oncle, dit-elle à l'abbé quand ils furent seuls, et après lui avoir raconté ce qu'elle venait de voir, ma mère passe des heures entières dans son oratoire. Est-il donc nécessaire d'assombrir ainsi la vie par des spectacles aussi lugubres ? Dans l'ordre spirituel, ma fille, chacun cherche les voies les plus en rapport avec son caractère. Quelques âmes préfèrent la voie de l'austérité, d'autres celle de la douceur. Gardons-nous de les blâmer. » Vous approuvez donc l'austérité ? Pourquoi pas ? Vous la pratiqueriez vous-même ? Non. La conseilleriez-vous ? Pas davantage. Et pourquoi donc, puisque vous l'approuvez ? Parce que l'austérité ne saurait convenir qu'aux âmes qui l'embrassent spontanément et par choix, et non aux âmes faibles et timides qu'elle ne ferait qu'éloigner. On a toujours tort de s'ériger en juge des actions d'autrui. C'est, dans l'ordre spirituel, un droit sacré pour chacun de se diriger d'après ses propres tendances tant qu'on ne s'écarte pas des sentiers du bien. Et respecter ce droit légitime est pour nous un devoir impérieux, surtout dans un siècle qui porte si haut la liberté de la pensée.